Amma Mogaizel est écrivaine, journaliste et réalisatrice, notamment pour Arte et France Télévisions. De 1984 à 1990, elle a également été correspondante de Radio France pour le Moyen-Orient à Beyrouth. Elle présentait le film documentaire « Liban, l'épreuve du chaos », film en compétition dans la catégorie plus de 40 minutes lors de la 28e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé à Douai du 29 septembre au 3 octobre dernier. Le sujet ? Automne 2019, le peuple libanais sort dans la rue pour dénoncer la corruption et l'incompétence de ses gouvernants. Été 2020, le port de Beyrouth est dévasté par des explosions apocalyptiques. En moins d'un an, les crises sanitaires, financières et sociales se succèdent et deux gouvernements sont contraints à la démission. Ce film de géopolitique alterne des séquences de vie tournées aux côtés de jeunes Libanais de toutes les confessions et l'analyse posée de personnalités de premier plan telles que le prestigieux écrivain Amin Malouf. Ces grands témoins mettent en perspective les événements tragiques qui semblent accaparer ce petit pays depuis sa naissance il y a tout juste 100 ans. Entretien avec la réalisatrice Amma Mogaizel juste après la bande-annonce de son documentaire.
C'est l'histoire d'un pays 100 fois détruit, 100 fois ressuscité. Le 4 août 2020, l'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium pulvérise le port de Beyrouth et une partie de la ville. Plus de 200 morts, près de 10 000 blessés et 300 000 personnes désormais sans abri. Le drame a endeuillé Beyrouth, mais réveillé la révolution. Quatre jours après l'explosion, comme à l'automne 2019, ils sont des milliers dans la rue pour crier leur colère et réclamer le départ de leurs dirigeants. Pourquoi un pays avec de tels atouts, avec tant de talents, vit-il un éternel naufrage ?
Amma Mogaizel, vous venez de présenter votre documentaire « Liban, l'épreuve du chaos » qui est en compétition plus 40 minutes au FIGRA. D'abord, première question, c'est la première fois que vous venez présenter un film au FIGRA ou vous êtes déjà venu ?
Non, je suis venu très souvent, tous les ans je viens au FIGRA. J'ai fait toutes les villes, le Touquet, Saint-Omer et puis la Douai, donc je suis venu très régulièrement. Mon film n'est pas sélectionné à chaque fois, mais je viens parce que ça me passionne quoi, de regarder le travail des autres.
Alors, pour revenir à votre film, donc vous avez une histoire particulière avec le Liban puisque vous avez grandi là-bas.
Tout à fait, je suis née là-bas, j'ai fait toute ma scolarité là-bas et la guerre civile a commencé, j'avais 14 ans. Je n'ai jamais voulu partir parce que je faisais partie d'une famille très militante, anti-guerre, tout ça. Donc je suis restée jusqu'à mes 30 ans. Et quand la guerre s'est terminée, s'est achevée, j'avais 30 ans. Et j'ai dit, bon, moi j'ai payé mon tribut au pays, j'ai fait ce que je pouvais. Mais je me disais, bon, je vais aller voir ailleurs quand même parce que j'avais vraiment peur que ce soit un problème sans fin. Et d'ailleurs, le futur m'a donné raison et je suis partie en France, qui est mon second pays de cœur.
Pas facile de synthétiser l'histoire du Liban en 52 minutes. Comment s'est passé le tournage, le déclic qui vous a dit il faut y aller ?
Quand j'ai vu ces jeunes qui ont commencé à manifester dans la rue en octobre 2019, ça m'a vraiment rappelé les manifestations qu'on faisait pendant la guerre, contre le communautarisme, et je me disais, il faut les rendre visibles, quoi, parce que ce qu'ils font est quand même pas facile. Ils sont ensemble, ils n'étaient pas sous des... avec des slogans ni religieux, ni communautaires, ni politiques. C'était vraiment des jeunes qui avaient envie de faire un pays moderne, quoi. Et je me suis dit, il faut leur donner la parole. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'y aller. Et Arte m'a suivi. Enfin, déjà, Kappa m'a suivi, la boîte de l'agence de presse. Et puis, Arte m'a suivi parce que je leur ai dit, il y a quelque chose qui se passe, là, au Liban, qu'il ne faut pas rater.
Alors, le Liban, on peut dire aussi que c'est un pays un peu otage, évidemment, puisqu'il est encerclé par Israël, par la Syrie aussi, qui a fait beaucoup de mal à ce pays sous l'occupation. Il y a eu la révolution de cette jeunesse. Est-ce que on peut espérer éventuellement que ce pays change, enfin, même si il y a une protagoniste dans le film qui dit c'est un pays confessionnel, ça ne changera pas.
Moi, je suis sûre que les générations à venir, parce que ce qui était différent au départ de mon temps, je vais parler comme les anciens, c'est que il y avait la communauté chrétienne d'un côté, les communautés musulmanes, et en fait chacun avait des fantasmes total, enfin un fantasme de fantasmer totalement l'autre, en se disant l'autre est vraiment très très différent, on va pas y arriver à vivre ensemble. Et après, il y a eu les réseaux sociaux, et ça a beaucoup, beaucoup aidé, parce qu'il y a eu des échanges entre les jeunes de différentes communautés où ils se sont rendus compte qu'ils se ressemblaient comme des frères, quoi. Que c'était... Donc, je crois, moi, c'est pas que je crois, c'est que je suis sûre que le pays va beaucoup évoluer, comme tout. De toute façon, c'est le sens de l'histoire. Que ça va prendre du temps, mais que l'autre n'est plus un réservoir à fantasmes qu'il l'est aujourd'hui, qu'il l'était avant. Donc, effectivement, la structure du pays, à un moment, elle va devenir laïque, comme partout. Les chrétiens ont mis des années à se réajuster, à aller vers la laïcité. Ben, ça va prendre du temps des deux côtés. Hein.
Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que malgré tout, toute religion confondue, cette révolution, elle fait descendre tout le monde dans la rue, et tous ensemble.
C'est ça. C'est ça qui m'a donné de l'espoir. C'est qu'en fait, tout le monde a la même problématique. On n'est pas génétiquement programmé pour se taper dessus. Et c'est ça que j'aime pas, moi. Ça me choque beaucoup quand on parle de la libanisation des autres pays, comme Zemmour ou autres. Enfin, on n'est pas génétiquement fait pour se battre, quoi. C'est complètement débile. C'est juste qu'il y a une évolution de l'histoire qui doit se faire, hein, et une laïcité qui doit accepter un système politique. Et ça évolue, et tout évolue.
Ces familles qu'on suit un peu, ces personnes qui sont très très impliquées, qui ont un regard assez tragique, faut dire. Il y a une phrase que moi j'ai notée qui m'a un peu bouleversé, c'est Ryan, si je me souviens bien, qui dit on peut quitter le pays, mais en fait c'est le pays qui nous quitte.
C'est tout à fait ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup aussi, c'est qu'on a l'impression d'investir, c'est ce qui s'est passé moi... à l'époque de la guerre civile, je veux dire, on s'est battu. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on a organisé comme manif, comme on a tendu des ponts entre nous, on a fait des choses avec les communautés. Bon, moi, je suis de communauté chrétienne, comme ça, c'est complètement privé. Je ne suis pas d'appartenance. Politiquement, ça ne veut rien dire pour moi. Mais on a fait vraiment plein de choses, et on a l'impression que le pays ne l'a jamais rendu. Parce qu'effectivement, il est otage d'hommes politiques qui sont complètement corrompus. Et effectivement, on a l'impression que tout ce qu'on donne, l'autre ne nous le rend pas, quoi. C'est comme dans un couple, hein. C'est la réciprocité.
Et puis il y a cette jeune femme qui gère un petit peu des envois de bénévoles pour avec l'explosion du 4 août, qu'on a tous vu aux actualités, qui dit finalement, malgré tout ce qu'on subit, on s'adapte toujours, toujours, toujours. C'est ça aussi qui fait la force de cette jeunesse.
Tout à fait. Alors c'est à double tranchant, et c'est ce qu'elle dit aussi d'ailleurs Iba dans le film, c'est que cette résilience dont affuble toujours les Libanais, qui est réelle, parce que là-bas on n'est pas protégé, l'État n'est pas protecteur, il n'y a pas de sécurité sociale, donc quand vous avez un problème, c'est vous qui vous relevez. Et c'est vrai qu'il y a une pulsion de vie chez ce peuple qui est assez extraordinaire. Je ne le dis pas parce que moi je suis franco-libanaise seulement, c'est vrai que on a une pulsion de vie qui est assez... donc on s'adapte, on se relève, mais à la fois ça nous joue des tours, parce qu'on a l'impression que de tout accepter. Et l'enjeu aujourd'hui, justement, c'est de s'adapter, mais pas trop, et de garder la colère qui fait changer les choses.
Le contexte géopolitique, il est aussi assez incompréhensible parfois. Le Hezbollah, quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a apporté?
Alors le Hezbollah, il serait pas né. C'est comme ici quand on voit que les jeunes en difficulté se tournent vers la religion. Le Hezbollah est arrivé à un moment où, de toute façon, la communauté chiite libanaise, qu'il dirige aujourd'hui, était à la fois socialement la communauté la plus défavorisée. C'était le Liban périphérique, c'était des villages dont l'État ne s'est jamais occupé. Donc eux sont arrivés avec l'argent de l'Iran. Ils ont construit des hôpitaux, des écoles. Donc, si vous voulez, ils ont joué ce rôle. Et ils ont ramené vers eux toute la communauté chiite qui, politiquement, n'était pas non plus... Enfin, ça foutait un peu. Et ils continuent à jouer ce rôle-là et avec de l'argent de l'Iran. C'est-à-dire, les Iraniens, l'argent qu'ils mettent au Liban, c'est autant d'argent dont ils privent leur propre peuple. Et effectivement, quand vous arrivez avec de l'argent et que tout est gratuit pour votre communauté, ben voilà quoi, vous gagnez votre cause.
Il a fait peur aussi à d'autres pays, notamment Israël, le Hezbollah, quand il est arrivé.
Alors ça, c'est sûr, c'est que jamais personne n'a gagné une guerre. Enfin, toutes les guerres israélo-arabes ont été perdu par des Arabes. Alors c'est presque une blague. On a toujours appartenu au camp des perdants. Ça, au moins, il n'y en a pas une qu'on a gagnée. Même les Arabes qui ont initié des guerres ne les ont jamais gagnées. Et le Hezbollah est arrivé en disant, attendez, ça va, les Israéliens font régulièrement des invasions dans le sud du Liban, et c'est vrai, à la frontière libanaise, d'où partaient les attaques palestiniennes. Voilà. Nous, on va leur répondre. Et donc, c'est une histoire sans fin. Mais ce que le Hezbollah a réussi, c'est à acheter ils recevaient des missiles de l'Iran, sol, air, et ils ont atteint Tel Aviv, Jérusalem, tout ça, ce qui ne s'était jamais passé. Et là, du coup, les Israéliens, ils font doublement attention quand ils déclenchent une opération sur le sol libanais, parce qu'ils savent que la riposte va être très dure.
Je reviens sur le tournage, ça a dû être compliqué, il y a eu le Covid, hein. Et puis il y a eu cette explosion, où là vous vous apprêtiez justement à repartir.
Tout à fait. Là, le 4 août, et finalement, en fait, j'étais contente, entre guillemets, d'être là-bas. D'abord, j'ai vécu avec mes amis, ça, j'ai été légèrement blessée, c'était pas grave. Mais moi, j'ai compris, ça a changé tout, quoi. Parce que je me suis dit, quand même, c'était une preuve que la classe politique, par sa négligence, pouvait aller très loin dans le meurtre de masse. Mais aussi que les gens, quand j'ai vu comment les jeunes, dont Iba, ont réagi pour aider à construire... Et vous voyez, il y avait des femmes avec des écharpes, et pas des burkas, parce que ça n'existe pas chez nous, mais il y avait des musulmans et des chrétiens, ils ont tous pris l'appel et ils ont déblayé ensemble, quoi. Et ça, du coup, c'était... D'un côté, ça montrait combien le pays... On n'était pas sortis de l'auberge avec ce genre de personnes qui avaient tout... C'était énorme, c'était lunaire, vraiment. C'était lunaire comme décor. La déflagration était énorme. Et en même temps, le sursaut était énorme aussi. Et ça, c'est le Liban, quoi.
Bah, du coup, ma question bonus, vous parliez tout à l'heure, vous citiez « on n'est pas sorti de l'auberge ». Et moi, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait une expression, justement, quand c'était un peu le bordel, un peu le dawa, c'est « Beyrouth ici ». Qu'est-ce que vous en pensez de cette expression?
Je l'utilise souvent, quoi. Je me disais, ouais, alors que j'aime pas libanisation, c'est autre chose. Beyrouth, c'est le bordel.
Ouais.
C'est genre, on n'a pas d'électricité, on se débrouille quand même. Nous, pendant la guerre, pour regarder la télé, on approchait la voiture à côté du mur de l'appartement pour brancher les fils... pour faire tourner le moteur de la voiture pour avoir la télé en haut. Ça, c'est Beyrouth, quoi. C'est la débrouille et le bordel. La libanisation, c'est autre chose. Et oui, mais jusqu'aujourd'hui, je dis, mais c'est pas possible, c'est Beyrouth, quoi.
Et vous allez y retourner?
Tout le temps. Tout le temps. J'ai une passion pour ce pays, un amour fou. Non, c'est à la vie, à la mort, hein.
J'ai également été prendre les réactions de deux élèves du lycée Condorcet de Lens présents lors de la projection pour avoir leur ressenti.
Tu viens d'assister à ce film, L'épreuve du chaos, donc sur le Liban. Alors, première impression.
Très beau film, très bonne explication. Je connaissais pas grand chose à ce sujet, je peux vous mentir. Et C'est sûr que c'était assez court, 52 minutes, pour expliquer un sujet aussi vaste, mais qui a été assez bien résumé en somme.
Et toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé éventuellement? On parle de jeunesse qui descend dans la rue, dans plusieurs pays évidemment, du Moyen-Orient et ailleurs, ça s'est passé aussi.
Oui, cette jeunesse révoltée, effectivement, c'est assez inspirant, car on voit qu'ils se battent pour défendre leurs idées et pour combattre ce gouvernement assez corrompu. Et c'est sûr que ça pourrait nous inspirer, pour nous, cette jeunesse française également.
Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, L'épreuve du chaos, que tu viens de voir sur le Liban?
Je pensais que c'était intéressant et qu'on en apprenait plus sur le Liban et son histoire.
Et tu connaissais un petit peu l'histoire justement du Liban, qui a souvent été en guerre. Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu la même chose, mais ils sont un petit peu coincés.
Non, pas du tout. La seule chose que j'étais au courant, c'était l'explosion le 4 août. Et les révolutions un peu que j'avais vues sur les réseaux sociaux, mais rien de plus.
Toi, ton regard un peu sur cette jeunesse qui descend dans la rue et qui s'adapte à chaque fois, malgré tout?
Je trouve qu'ils s'accrochent, mais et que ça fait pas trop bouger les choses, leur révolution, mais c'est quand même quelque chose de faire une révolution pour pas se laisser faire.
Je pense que ce pays où je suis né, où j'ai grandi et que j'ai toujours aimé, que je continue à aimer, avait la possibilité de devenir autre chose. Et ça m'attriste profondément de voir qu'il s'est rabougri et qu'il souffre, que les gens souffrent pour vivre chaque jour, pour survivre.
Quand on parle de la famine au Liban, c'est quand même incroyable, parce que ce pays, sauf pendant la Première Guerre mondiale, n'a jamais connu la famine. Il peut être dans des situations très difficiles, mais il n'a jamais connu ces situations extrêmes.
De voir les voisins au supermarché regarder une fois et deux fois le prix du sucre, du riz, du café, qui est du pain même, avant de le mettre dans le panier. Nous n'avons jamais vécu ça au Liban. C'est un peuple qui a été volé par sa classe politique.
Les revendications étaient surtout sociales, étaient des revendications de refus d'un ordre établi. C'était un mouvement qui a voulu casser un statu quo et passer à autre chose.
Le 17 octobre, c'est la vie qui reprend le dessus. Oui, nous sommes là, nous allons faire, nous allons, au-delà de nos appartenances communautaires, musulmans, chrétiens, enfin nous allons nous occuper du pays.